RTN Info. Claire Vigée.
Bonsoir, la balade photographique La Vue des Alpes Tête de Rang est de retour pour une deuxième édition. Cet hiver, les clichés très grand format plongent les visiteurs dans les années 1950 à 2000. Attirer plus de monde le vendredi et le samedi, c'est un des objectifs de Carnavalon pour son édition 2025. Après avoir connu des mois difficiles en termes de finances, la manifestation vallonnière met les bouchées doubles pour attirer du public. Il y a deux chances suisses de podium au slalom de Killington aux États-Unis. Après la première manche de cette épreuve de Coupe du Monde de ski alpin, Camille Rast pointe au troisième rang provisoire, juste devant sa compatriote Mélanie Meillard. Et puis la journée de demain s'annonce partiellement ensoleillée, en tout cas le matin. Une dégradation arrivera en seconde partie de journée par l'ouest. Les températures s'annoncent plutôt douces, avec 10 à 11 degrés au maximum. La vue comme vous ne l'aviez plus vue depuis des décennies. Après avoir exploré les années 1880 à 1950 l'hiver dernier, l'association de développement La Vue des Alpes Tête de Rang revient avec une deuxième édition de sa balade photographique. 40 panneaux accueillent des clichés très grand format et jalonnent un parcours d'un kilomètre et demi entre le col et la métairie des Gumenon. L'ADVAT propose cette fois-ci de découvrir en images la période courant de 1950 à 2000. Au milieu du XXe siècle, le site est devenu aisément accessible et connaît un fort développement touristique et sportif. Anouk Elmal, membre du comité de l'ADVAT et historienne de l'art.
C'est une période de temps un petit peu artificielle, c'est-à-dire que la première édition s'est arrêtée en 1950. L'idée, c'était aussi de rester dans des images exclusivement noir-blanc. La photographie couleur arrive un peu, bien sûr, avant, mais l'idée, c'était vraiment de s'arrêter en 1950. Bien sûr, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on s'arrête en 2000 parce que ce n'est pas tellement intéressant de dépasser 2000 non plus. On a tous après des images chez nous, dans nos téléphones. C'était plutôt de faire un petit clin d'œil en arrière dans les années entre 50 et 2000, et puis de voir l'évolution aussi bien au niveau des véhicules, par exemple, que dans les vêtements ou bien dans la technique du ski.
La balade photographique La Vue des Alpes, Tête de Rang, Histoire et Anecdotes 1950-2000 est à découvrir jusqu'au 27 avril. Des soirées complètes, c'est l'objectif de Carnavalon pour sa prochaine édition. Si cela peut sembler logique, on peut rappeler que le dernier carnaval neuchâtelois n'a pas fait salle comble le samedi lors de sa dernière édition, c'était en avril, et que le vendredi est toujours un jour moins populaire dans la patinoire de Fleurier. Alors pour 2025, les organisateurs veulent voir les choses en plus grand afin d'attirer du public, alors que les Gougens seront toujours à la fête le samedi. Les précisions de Vincent Huguenin, vice-président et responsable bar de Carnavalon.
On peut de toute façon s'inspirer des éditions précédentes, hein, ça c'est sûr. Pour cette année 2025, pour renflouer un peu le vendredi, on a prévu une petite soirée avec un de vos DJ préférés. Il y a Steve qui va venir le vendredi pour essayer de remplir cette patinoire. La capacité de la patinoire, c'est 3 000-3 500 personnes. Après, la sécurité nous tape dessus, donc on va essayer d'arriver à ces 3 000 personnes autant le vendredi du coup que le samedi. Ça serait vraiment, vraiment génial. Ouais.
La population du canton de Neuchâtel, elle se déplace au Val de Travers pour venir à Carnavalon ?
Oui, alors on ne demande pas à chaque personne d'où c'est qu'ils viennent, mais on a bien l'impression que non seulement les personnes du canton se déplacent, mais aussi hors canton, que ce soit du canton de Vaud, même de la partie française. On voit quand même passablement de plaques françaises devant la patinoire tout au long du week-end, donc ça fait plaisir de voir que les gens autour se déplacent bien à Fleurier.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker. Carnavalon remonte le temps, c'est le thème de la prochaine édition. Elle se tiendra à Fleurier du 4 au 6 avril 2025. Canal B, la petite sœur biennoise de la télévision neuchâteloise Canal Alpha, devra patienter avant d'émettre. Le département fédéral de la communication a prolongé la concession de télébilingue qui aurait dû s'éteindre à la fin de cette année. Elle courra au moins jusqu'au 1er janvier 2026, jusqu'à ce que le tribunal administratif fédéral rende sa décision. Selon le journal Le Temps, le DTEC avait provoqué la surprise en début d'année en préférant un projet de la chaîne neuchâteloise à la TV du groupe Gassman pour la concession de la zone de Bienne. Un nouvel ouvrage s'intéresse à l'horlogerie dans l'arc jurassien, intitulé « Parcours horloger de la famille Gagnebin au siècle des Lumières ». Il est paru aux éditions Alphil. Selon son auteur, Rosella Baldi, historienne de l'art rattachée à l'université de Neuchâtel, il ne s'agit pas d'un énième livre sur l'horlogerie, il apporte bien et bien quelque chose de nouveau à ses lecteurs.
Il en existe de nombreux, mais justement, celui-ci, il s'intéresse à ces figures Gagnebin pour montrer qu'il y a toutes sortes de documents nouveaux qu'on peut exploiter pour mieux comprendre le contexte horloger. Et aussi, justement, il s'intéresse à l'horlogerie pour montrer qu'il y a quelques idées reçues qu'on a sur cette histoire horlogère. Et un tout petit peu, je dirais, pas pour les remettre en question, mais pour apporter un peu d'ouverture à cette histoire horlogère qu'on a un peu tendance à répéter de la même manière, en tout cas pour le XVIIIe siècle. Ce que l'ouvrage propose, c'est une autre lecture de ce siècle, de cette histoire horlogère, en la montrant très riche en mobilité, en savoir-faire, en idées, etc. Donc voilà, on espère que cela contribuera un peu à revoir, si vous voulez, la manière dont on a jusqu'à présent compris l'histoire horlogère du XVIIIe siècle.
Le petit format de ce livre et la présence de nombreuses illustrations le rendent accessible à de nombreux lecteurs. C'est en tout cas ce qu'estime l'auteur Rosella Baldi. Dans l'actualité étrangère en Syrie, le président Bachar al-Assad a promis aujourd'hui d'utiliser la force pour éradiquer le terrorisme lors d'un appel téléphonique avec un responsable d'Abkhazie, région séparatiste pro-russe de Géorgie. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana. Le nord du pays a été le théâtre d'une offensive fulgurante meurtrière lancée par une coalition de groupes rebelles menée par des islamistes. Il n'y a pas d'accord sur la pollution plastique. Les négociations menées pendant une semaine en Corée du Sud pour parvenir à un traité mondial n'ont pas abouti. Elles continueront à une date ultérieure, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le diplomate qui préside le processus. Depuis l'ouverture de la séance le 25 novembre, les négociations ont tourné au dialogue de sourds entre une majorité de pays souhaitant un accord ambitieux et un petit groupe d'États producteurs de pétrole mené par la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Sport.
Une nouvelle chance de podium suisse à Killington. Après la troisième place de Camille Rast hier lors du géant dans la station du Vermont, la skieuse valaisanne pourrait bien en remettre une couche aujourd'hui. Lors de la première manche du slalom de Coupe du Monde qui s'est tenue cet après-midi, Camille Rast a terminé troisième, juste devant Mélanie Meillard. Vos précisions, Stéphanie Wenker.
Et quel week-end pour Camille Rast. La Valaisanne pourrait bien signer un deuxième podium à Killington, une semaine seulement après être montée sur la boîte pour la première fois de sa carrière. La skieuse valaisanne est placée à seulement 12 centièmes de l'Allemande Lena Dürr et un petit centième la sépare de la deuxième place de la Suédoise Anna Sven Larsson. Camille Rast est également talonnée par une autre valaisanne, Mélanie Meillard. La Neuchâteloise des Raymonds s'enregistre 30 centièmes de retard sur le podium. Les Suissesses profitent donc de l'absence de Michaela Schifrin, blessée la veille en géant, et de celle de Petra Vlova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier. La deuxième manche se tient dès 19h heure suisse et elle promet son lot de surprises.
Merci Stéphanie. Et puis les autres Suissesses sont classées plus loin. Wendy Holdener est 9e. Michelle Guisin se trouve à la 24e place provisoire, juste devant Aline Hupli. Eliane Christen est 38e. Nicole Gaud et Aline Deinot ont été éliminées. Stéphane Rüxeger a joué avec le LHC cet après-midi face à Ombri Piotta. L'attaquant évoluant avec le HC La Chaux-de-Fonds Swiss League de hockey sur glace a vu sa licence B être activée par le Lausanne Hockey Club à la suite de nombreuses blessures côté vaudois. En National League, les Lions ont joué donc contre Ombri. Le match vient de se terminer et le score est de 3 partout. Et puis plus tôt dans la journée, Berne a battu Rapperswil 4-2. En Super League de football, deux matchs sont en cours. Young Boys mène actuellement 2-1 face à Saint-Gall et il y a 1-0 entre Servette et Lugano. Plus tôt cet après-midi, Sion a battu Winterthur 3-1 et s'éloigne ainsi du bas du classement. Toujours en football, Maxime Dominguez est devenu le premier Suisse à marquer dans le championnat brésilien. Le Genevois, qui est notamment passé par Neuchâtel Xamax, est le premier footballeur helvétique à fouler les pelouses de la Serie A brésilienne depuis son arrivée en septembre à Rio de Janeiro. Il a permis à son équipe Vasco da Gama de signer un match nul face à l'Atlético Goianiense.